Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un nouvel invité que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Éric Le Sennet, bonjour.
Bonjour Yannick, merci.
Merci à vous Éric. Alors on enregistre cette émission dans le parc de l'hôtel Avalon-Vauban à Avalon. Nous sommes dans un havre de verdure, un petit peu le bruit de la ville autour de nous, mais néanmoins un cadre plutôt charmant, où l'on redécouvre la liberté, l'extérieur, après une période un petit peu particulière, hein, tout de même.
Hein. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, je trouve que votre studio est tellement accueillant qu'on va peut-être s'y établir pour quelque temps. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour faire de la radio. À l'hôtel Avalon-Vauban à Avalon.
Rue de Paris à Avalon, et je remercie et salue les gérants de cet établissement, Christiane et Dominique Bab. Alors Éric Le Sennet, je dois vous présenter, vous êtes journaliste. Initialement, votre première profession, journaliste de presse écrite, vous avez réalisé des clips musicaux au début du top 50 de Canal+. Vous avez également fait des captations événementielles internationales, des films de prestige. Vous avez aussi, alors si je peux me permettre le verbe, bourlingué, puisque vous avez beaucoup travaillé à l'étranger, dans le monde entier, sur différents continents. Vous avez aussi à votre actif un grand nombre de documentaires. Alors vous avez beaucoup travaillé, des documentaires sur le monde du luxe, pour des maisons prestigieuses, Louis Vuitton par exemple, parmi d'autres. Un documentaire sur un enfant de Clamcy, où vous êtes établi avec votre ami, votre compagne, hein, Alain Colas, Rêve d'océan. Mentionnons Train de bois pour Paris, le canal du Nivernais d'une rive à l'autre, le Morvan des lacs. Et puis le dernier documentaire à votre actif, Éric Le Sennet, c'est Jean-Pierre Soisson, Ma 5e République, diffusé sur France 3. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, fin février 2018. Alors vous avez aussi créé une radio locale en Normandie, il y a un peu plus de 30 ans. Vous avez, alors là je vous envie, vous avez interviewé un millier de personnes, de Bernard Arnault en passant par des ministres ou des stars mondiales, Éric Le Sennet.
Oui, et souvent j'ajoute, et aussi des responsables des Emmaüs à Dijon. Et je suis sorti de toutes ces interviews avec un petit peu plus de richesse qu'avant, parce que en fait voilà, pour moi les interviews ça se fait exactement comme dans Highlander, mais à la fin on se coupe pas la tête, c'est-à-dire qu'il y a comment dire un échange d'énergie commune quand l'interview est bien menée, quand l'intervieweur est bien rodé et bien patiné à son métier, il y a un échange qui ne peut que dépasser l'ego, ou alors c'est pas une interview. Et donc, dans toutes ces interviews, eh bien, j'ai toujours retiré quelque chose de positif et je les ai mis pour partie dans mes fables.
Alors, vous êtes un homme aussi donc de l'image et de la télévision, puisque vous avez créé il y a 5 ans Clamcy TV, une web télévision que l'on peut bien sûr toujours découvrir via Internet, bien évidemment. Hein.
Il y a plusieurs facettes à Clamcy TV. En fait, Clamcy TV, c'est la tête de pont d'un réseau qui s'est étoffé. D'abord, Clamcy TV, ce sont deux choses. C'est le site www.clamcytv.com, sur lequel c'est le réceptacle, sur lequel on met la cinquantaine de vidéos qui sont un peu dans l'actualité, mettons de manière trimestrielle. Et puis au quotidien, il y a nos pages Facebook, Clamcy TV, ma page à moi, Éric Le Sennet, et puis une autre qui s'appelle C'est le journal, et même deux épiphénomènes qui s'appellent Nevers TV et Océan Co. Et tout ça, ça représente, je rappelle que Clamcy, c'est 3500 habitants maximum, et ça représente à peu près 15 000 personnes en contact, et ça touche chaque mois aux alentours de 60 000 personnes, ce qui est assez performant. Mais ce n'est pas là le vrai objectif, ce n'est pas la statistique. Le vrai objectif, et Facebook est intéressant pour ça, c'est de voir si on peut servir à quelque chose pour créer du lien social, pour se servir de notre métier, de nos savoir-faire, de nos communications, pour faire en sorte que le pays aille mieux, qu'il aille plus haut, qu'il se développe et que la culture soit, comment dire, la plus répandue possible, contrairement à certains échos. Je ne sais pas si vous en avez dans Lyon, mais dans la Nièvre, on a quand même des gens qui sont des abrutis et qui prétendent que la culture ne sert à rien et que ça coûte cher.
Alors vous êtes un passionné de littérature, puisque aujourd'hui nous allons mettre un éclairage sur un recueil de fables que vous avez écrites il y a 5 ans maintenant, enfin un peu plus de 5 ans. Le recueil apparu sur les presses d'ailleurs d'une entreprise clamsicoise, hein, La Ballerie, hein, pour ne pas la nommer, qui, je crois, est très connue en France parce qu'il y a beaucoup de grands éditeurs nationaux qui font appel à La Ballerie.
La Ballerie est le numéro 2 de l'imprimerie du livre en France. Elle n'imprime que des livres. C'est ce qui est quand même conséquent et qui, dans Wagon Livre, mérite d'être salué parce que, en fait, on est tous en train de faire quelque chose de fabuleux et La Ballerie nous fournit de quoi alimenter nos neurones et notre culture, le livre. Et d'ailleurs, les fables, là, j'en ai fait un film au moment de la naissance sur les rotatives. Je ne sais pas si on appelle ça des rotatives maintenant, mais dans l'imprimerie, il y a un film, donc sur Clamcy TV, qu'on peut voir qui s'appelle « Naissance d'un livre ». Et je trouve qu'à regarder ces images, c'est très émouvant et qu'on pourrait très bien se dire que ce mouvement, nous on l'a vécu avec Stéphanie, ma compagne, comme une naissance, la sortie du livre. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que j'écris, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire ça. Et le fait de voir se matérialiser ce qu'on a écrit sous la forme d'un livre, ça me rappelle quand j'étais journaliste, quand je voyais les rotatives justement et les journaux. Au petit matin, à 4 heures du matin, alors que ça faisait des jours, des nuits qu'on écrivait comme des fous. Voilà. Et on voyait ces journaux, comme dans les films, qui, de plus en plus vite, valsaient, tournaient. Et on se disait, waouh, j'ai écrit là-dedans quand même.
Alors, Fable d'aujourd'hui, le titre de votre recueil, Éric Le Sonnet, vous n'avez pas choisi un genre littéraire facile. Parce que la fable s'inscrit dans une tradition illustrée par, alors dans l'Antiquité, Ésope, qui d'ailleurs fait la préface de vos fables.
J'ai pensé qu'Ésope, comme préface, c'était bien, quoi. Et je l'ai appelé et il m'a dit « Éric, je suis d'accord, t'es un mec sympa, je vais signer ». Mais Ésope cite lui-même Monsieur de La Fontaine.
Et Jean de La Fontaine qui, effectivement, en France, je crois, dans la tradition scolaire, est-ce que justement, il n'y a pas... Comment dire, est-ce que la fable n'est pas un peu trop étudiée ou reste encore trop un objet de récitation ? Je sais qu'elle était au programme du baccalauréat de français il y a un peu plus de 20 ans, mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, Éric, dans l'époque tourmentée qui est la nôtre, faut-il revenir à la morale, à la fable, à des textes qui font réfléchir ?
Ce sont plusieurs questions.
Oui.
Parce que revenir à la morale et revenir à la fable, effectivement, ça mériterait une conversation assez élargie. Mais je vais essayer de répondre. D'abord, moi, j'ai choisi les fables parce que c'est venu dans ma vie sur la base de 3 déclics. Le premier, c'est La Fontaine, comme tout le monde. Et que dès qu'on m'a raconté La Cigale et la Fourmi, alors, je devais être un peu petit, hein, je me suis dit, c'est génial. Dès qu'on m'a raconté Le Corbeau et le Renard, je me suis dit, mais c'est génial. C'est incroyablement court, dense, je dirais cinématographique. Et ça parle, et en plus ça rime, et en plus ça me plaît, et j'adore ça. Donc le premier déclic, c'était il y a bien longtemps, c'était évidemment La Fontaine. Et puis assez rapidement, j'ai su que c'était Ésope qui avait écrit, et d'ailleurs La Fontaine le dit, hein, dans la préface, c'est cité, qu'il emprunte les personnages créés par Ésope pour les versifier avec le talent qu'on sait. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que j'ai eu la chance, avec Stéphanie, d'habiter à Montmartre, dans un immeuble où il y avait la famille Lucchini au 3e étage, et nous, on était au 1er étage. Et donc, on croisait Fabrice assez souvent, et une ambiance... La famille Lucchini mériterait un roman à elle toute seule, mais bon, je ne vais pas digresser parce que c'est voilà. Donc, évidemment, on a été amené à aller applaudir Fabrice Lucchini au théâtre des Champs-Élysées. Et franchement, toutes les personnes, c'est pas pour rien que c'est bourré à craquer tout le temps, c'est que toutes les personnes qui ont été, pendant une heure, il vous fait un truc assez intellect, sensible, etc. Et puis, à un moment, il bascule, et à la fin, tout le monde chante Mamie Blue, après avoir récité toutes les fables de La Fontaine. Bon, c'est un génie sur scène, et c'est vraiment un colporteur de mots, c'est au sens noble, qui est inégalable. Donc, les fables de La Fontaine, comme tout le monde, je dirais, mais plus de sensibilité avec ça. Lucchini, où tu te dis, comment ce genre pourrait-il ne pas être exploité, quoi. Bon, mais bon.
Et troisième déclic, alors ?
Oui, le troisième déclic, c'est simple. Là, je vais en dire que quelques mots. C'était à Moscou. Un grand ami photographe, très grand ami, fait un shooting de luxe de 45 photos autour du Maître et Marguerite de Bulgakov. Je rappelle que l'histoire, c'est que c'est quand même le diable qui va mettre un immense bordel dans Moscou sous Staline. Donc, voilà. Et donc, cette histoire que j'ai vécue à Moscou, complètement transformée, m'a inspiré la première des fables. Alors, qui s'appelle « Le dindon, la vache et le lapin galant ». Et je ne dirai rien sur les autres personnes, mais je dirais juste que j'embrasse très fort Jean-Daniel Lorieux, qui est mon lapin galant préféré, il le sait, et c'est un grand ami.
Alors je disais au début de notre échange que vous étiez, disons que vous affrontiez un genre littéraire codifié, les contraintes du vers, de la rime, bon, la structure, et puis la morale. Mmh. Alors, il faut essayer de faire neuf, il faut, les morales finalement restent, elles sont intemporelles, parce que malheureusement, l'humanité, les travers de l'humanité n'évoluent pas, malheureusement. Ou alors ça s'aggrave.
Moi je sais que le premier poème réellement que je considère comme mon premier poème, je l'ai écrit parce que j'avais un pote qui s'était fait une overdose derrière un lycée, quoi. Et donc voilà, et moi j'ai écrit ça, ça m'est sorti comme la manière que je pouvais accrocher pour exprimer ce que j'avais à l'intérieur qui devait sortir à l'extérieur. Et bien là, les fables, évidemment, l'événement est moins dramatique, mais tous ces phénomènes-là, il fallait que ça mûrisse comme une graine. Et donc, à ce moment-là, je me suis même pas posé la question de savoir si je faisais un genre ou ceci ou cela. Je me suis dit, ça fonctionne bien comme ça, j'ai envie de le raconter comme ça. Après, je me suis dit, tu peux pas le raconter sous une forme de fable sans te mettre, parce que ça, c'est mon truc à moi, dans les contraintes du genre. Parce que sans ça, ça fonctionne pas. Si on écrit une tragédie classique, il faut 5 actes, il faut 3 unités et il faut, à mon avis, plus Corneille que Racine parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir un héros qui essaye de s'en sortir que Phèdre qui pleure sur son sort. Ça, c'est un choix. Et je comprends très bien que quelqu'un puisse avoir l'autre point de vue. Il faut respecter le genre. La fable doit être composée, de mon point de vue, un peu comme La Fontaine, d'une histoire qui mélange une sorte d'anthropomorphisme avec de la versification assez riche et avec une morale. Je pense que quand on écrit le mot morale à la fin de la phrase, de la fable, on est au nœud gordien de quelque chose entre ce qu'on a écrit et quelque chose qu'on a à transmettre. Et en fait, résumer ce qu'on a voulu transmettre à l'intérieur. Et là, on n'est pas fier.
Oui, parce que la morale, elle tient en 4 vers, quatre vers ou 2 vers. Hein. Donc il s'agit d'une grande efficacité linguistique.
Oui, d'être hyper méticuleux et précis pour que ça résume à la fois tout ce qu'on a voulu exprimer et que ça reste un peu comme, je ne sais pas si je réussis parfois, comme un adage, quelque chose qu'on retient. On se dit, ah oui, il y a quelque chose. Il jouera, mais un peu tard, qu'on n'y reprendrait plus. Voilà, et les gens ils retiennent ça.
Oui, souvent plus la morale que le corps de la fable, hein,
oui.
Même.
Par exemple, quand même, l'idée de la flatterie dans Le Corbeau et le Renard, c'est quand même un peu ce qu'on en ressort. Là, je dirais que même La Fontaine fait plus de morale que ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai voulu, c'est pas la même époque, j'ai voulu que les gens lisent ça comme une sorte, non pas de conclusion morale qui indiquerait que c'est comme ça qu'il faut penser, ça ne me plaît pas du tout, c'est pas moralisateur, c'est pas moralisant, c'est marqué moral parce que, bon, on a dit, on va vous résumer à peu près ce qu'on a voulu vous exprimer. Et moi, j'essaye de faire en sorte que ça soit une réflexion que les gens puissent ensuite ouvrir et continuer à penser.
Se l'approprier,
derrière.
Voilà, se l'approprier oui. Pour, disons, engendrer d'autres réflexions oui. Sur un plan personnel.
Les bons films, c'est ceux qui vous restent le lendemain et vous dites. Qui vous interpelle et qui vous emmène ailleurs, quoi. Avatar, c'est quelque chose qui vous passionne, sur le, qui vous rend spectateur, enfant, etc. Moi, j'adore parce que, comme je suis un homme d'image, il est rare que je me retrouve vraiment spectateur, quoi. Et quand les films sont grandioses comme ça, eh bien, on y parle et ils deviennent même, comment dire, des référents pour toute réflexion à venir. Donc voilà, j'espère, le genre fable, c'est un peu, j'ai voulu l'entrecouper de pensées.
Oui, alors il y a des aphorismes aussi. J'en ai retenu quelques-uns. On va, si vous le voulez, Éric Le Sonnet, marquer une première petite escale musicale. Je rappelle que c'est Éric Le Sonnet qui est aujourd'hui l'invité de Wagon Livre sur Radio N pour son recueil Fables d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans une poignée de minutes.
Tu sens bon, mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus clin. De façon sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes. Sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes. 2 secondes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Éric Le Sonnet est aujourd'hui devant notre micro pour son recueil Fables d'aujourd'hui. Alors justement, parlons de ces fables, Éric Le Sonnet. Alors j'ai essayé, bien sûr je les ai lues avec beaucoup de plaisir, je les ai relues, j'ai souri, j'ai mesurer l'audace aussi, parfois, de certaines de ces fables. J'ai essayé aussi de les coller avec l'actualité, même un peu récente, hein, de notre vie politique, vie artistique, vie culturelle dans notre pays. Et notamment, il y a un grand nombre de fables qui s'articulent autour des thématiques de la politique et du pouvoir. Alors, j'ai retenu, par exemple, la taupe et la luciole. La taupe et la luciole fait allusion à donc une taupe qui est une sorte d'usurpatrice d'un pouvoir qui impose une tyrannie à son peuple et qui utilise une luciole pour des projections d'images un peu fantomatiques dans le but de susciter la peur et pour, disons, nourrir un pouvoir, faire trembler le peuple en disant « je suis le recours contre vos craintes ». Voilà. Et puis, bien sûr, au bout d'un moment, la taupe est démasquée. Et finalement, dans cette fable, il m'a semblé qu'il y avait une allusion peut-être à une femme politique qui s'est déjà annoncée candidate à l'élection présidentielle de 2022. Et je me dis, est-ce qu'Éric Le Sennais ne vient pas donner aussi des messages politiques implicites, mais qui me semblent très compréhensibles?
Alors, d'abord, Yannick, merci, parce que vous avez bien lu mes fables et vous les résumez de manière très intéressante. Ce qui est amusant, c'est que vous puissiez conclure que j'aurai un message précis par rapport à un personnage précis.
Alors, je peux me tromper, hein, c'est une interprétation qui n'engage que moi. Et c'est la raison pour laquelle je vous soumets mon point de vue.
Alors, je vais m'expliquer au fur et à mesure de mes fables. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que dans 50 ans, ou il y a 50 ans, n'importe quel fasciste se serait retrouvé vilipendé dans mes fables. C'est ça qui est intéressant. N'importe qui tiendra des propos fascisants se retrouvera dans l'histoire de la taupe et de la luciole. Ce qui est intéressant, la taupe, elle est choisie parce qu'elle vit dans un monde aveugle, dans un monde souterrain, dans un monde noir. Et la luciole, elle donne la lumière. C'est fait volontairement. À un moment, toute la fable, la taupe utilise la luciole pour projeter sa propre ombre sur le mur. C'est pas en référence avec une personne qui est de manière éphémère potentiellement candidate à la présidentielle en France. Non, ça fait référence à la caverne de Platon. Donc, c'est normal qu'on retrouve des gens qui utilisent ces stratagèmes, puisque Platon les décrivait déjà bien avant nous.
C'est l'invention du cinéma, presque, le mythe de la caverne,
absolument.
D'une certaine manière.
Oui, absolument. C'est du Socrate, c'est pas du Le Pen.
Quand vous dites certaine d'avoir compris l'art d'haranguer la foule, elle se prit assez vite à se croire oratrice, capable de convaincre un coq d'être une poule et entreprit enfin de se faire dictatrice. Je trouve que le message est assez clair.
Mais c'est marrant parce que moi je ne voudrais pas qu'on se focalise juste sur une personne qui n'est pas à la hauteur de la description. Il se passe qu'effectivement, on peut coller l'un sur l'autre. Mais ce n'était pas la personne. Alors, je vais vous donner une clé pour lire les fables. C'est que je les écris en prenant une référence, en général, assez précise, à deux ou trois personnes qui deviennent une sorte d'archétype d'un comportement. C'est là qu'on peut dire qu'effectivement, celle dont vous parlez pourrait éventuellement être un ersatz de quelque chose qui a inspiré. Mais Lucrèce Borgia, ça existait bien avant.
Éric Le Sennais, je vais vous inviter à nous lire une de vos fables. C'est celle qui se situe dans votre recueil à la page 45. Elle a pour titre « Le rat des Champs-Élysées ». Alors, je l'aime beaucoup, cette fable, parce que parmi l'ensemble des 26 fables, hein, il y en a 26 dans votre recueil, c'est celle qui me paraît la plus, on va dire, audacieuse, parce qu'elle parle du sexe et du pouvoir, et c'est intéressant, ce qui, finalement, ça reste quand même d'une grande actualité. Mais je vous laisse le soin de nous lire cette fable, Éric Le Sennais, s'il vous plaît.
Il faut juste préciser qu'il y a eu une antériorité entre le rat des villes et le rat des champs, donc c'est un clin d'œil à La Fontaine qu'il n'y a pas dans toutes les fables. Mais puisque celle-là vous plaît, j'ai l'impression, Yannick, que vous intéressez beaucoup à la politique en sous-jacence de mes fables, mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que cela. Je vous laisse nous lire Le rat des Champs-Élysées.
Un rat d'hôtel de ville, nourri par l'ambition, à l'aise dans la fange, sans jamais s'enliser, s'avérant beau parleur en un temps d'élection, devint sans coup férir roi des Champs-Élysées. À peine intronisé, il ordonna d'emblée qu'on repeigne les égouts en or de 10 carats, invitant à sa table les plus grands argentiers, les plus belles souris et puis les plus gros rats. N'étant pas grand expert des choses politiques, il n'écoutait en cela que l'air de son nombril, donnant aux plus flatteurs et aux plus prolifiques, soignant son bel égo sans se faire de bile. Qu'une banque fasse banqueroute, il levait un impôt, ratissant au plus large du peuple les deniers, pour enflouer les riches de tous leurs oripeaux et toucher dividendes à la fin de l'année. Imbu de sa personne, il se voulait monarque, mais caché sous le coude, sous ses airs d'éminence, à l'insu des regards et sans qu'on le remarque, un douloureux complexe sur sa proéminence. Elle était si petite que même une mère maquerelle, experte en tous les soins dédiés à la pintisse, n'avait pu parvenir à lui chercher querelle, ne trouvant pas la chose malgré nombre d'indices. La tôlière, s'estimant mal payée de son art, alla s'acoquiner avec une feuille de chou, c'est en fait spécialiste des dimensions des dards des messieurs de la haute qu'elle trouvait souvent mou. La presse s'empara bien vite de l'affaire, spéculant sur le sexe de ce curieux fantôme qui régnait sur le monde une poigne de fer en ayant la biroute la plus brève du royaume. En riant sous leur cape, les conseillers du roi firent venir en secret les plus belles filles du monde, espérant que leur charme réveillerait l'émoi du maître de leur gloire et les rendrait fécondes. Rien n'y fit cependant, jusqu'au jour où l'un d'eux trouva aux antipodes une princesse étaillée qui ravit tant le rat de la tête à la queue que de son gros bas-ventre ses attributs jaillirent. Il ne songea dès lors plus qu'à sa dulcinée, au plaisir de sa chair et à son nouveau vie, la besognant en bon train à longueur de journée, se saoulant de méfaim et menant grande vie. Se faisant, il grossit plus que de déraison, en tel point qu'on ne put plus l'extraire de sa hutte et qu'à dévorer tant les fruits de sa passion, il mourut un beau soir sur sa belle en plein rut. On apprit l'an d'après que la jolie souris était une douce espionne au service du parti d'un autre rat d'égout, prince de l'hôtel de ville, qui lorgnait sur le trône de ce gros rat débile qui pensait de bonne foi être assez affûté pour être intronisé roi des Champs-Élysées. Morale. Le pouvoir est un monstre affamé dont la quête s'avère provenir de tout autre horizon. S'il demande toujours plus, c'est dans des dimensions souvent proportionnelles à celles de la quéquette.
Merci Éric Le Sennay. Donc c'était une de vos fables intitulée « Le rat des Champs-Élysées ». Vous, bien sûr, le rat des Champs-Élysées, le rat des villes, le rat des champs, bien évidemment, l'intertexte, c'est la fable de Jean de La Fontaine. Et ce qui est amusant, c'est que La Fontaine, c'est un homme du XVIIe siècle. Donc on a parlé de la tragédie, les unités d'action, les codes hein, de l'écriture des œuvres classiques au XVIIe, puis il y a la bienséance. Et là, ce qui est drôle, c'est de voir le terme biroute dans cette fable. Et c'est bien aussi parce que fables d'aujourd'hui, ce sont aussi des fables qui s'offrent, une fantaisie de vocabulaire que La Fontaine ne pouvait pas s'offrir. Vous avez une vraie liberté.
Sachant que La Fontaine était bien plus libertin que moi dans d'autres ouvrages. Parce que La Fontaine a écrit nombre d'ouvrages libertins. Et qui correspondaient probablement à d'autres normes que les fables.
En tout cas, dans cette fable, il mourut un beau soir sur sa belle en plein rut. Ça m'a rappelé le président Félix Faure qui était mort en copulant avec une prostituée. Oui.
Là c'est tout à fait... C'est tout à fait. Mais cette fable, elle est un peu particulière parce qu'elle prend son inspiration, effectivement, et on voit bien Félix Faure et tous ces gens des Champs-Élysées et tous ces rêves. Et moi, j'ai trouvé que le rat des villes, le rat des champs, le rat des Champs-Élysées, c'était. En plus, on voyait bien à l'époque qu'il y avait quelqu'un à l'hôtel de ville qui voulait devenir quelqu'un à l'Élysée. Donc, il y a une histoire qui est raconté au travers d'éléments d'histoire réelle, mais il n'y a pas d'allusion particulière à un personnage ou à un autre. Pourquoi ? Parce que si c'était juste un pamphlet contre tel ou tel, ça serait pas très, ça serait, on ne serait pas dans le même genre. Là, le genre, c'est de dire, sur la base de ce que je vois de tous ces humains, je crée des animaux qui interagissent pour en tirer quelque chose qui pourrait servir à éviter ça aux humains du futur.
Alors, vous l'avez dit précédemment, Éric Le Sennay, il y a 26 fables et puis il y a intercalé effectivement des pensées, bon, j'appelle ça des aphorismes, oui. Cela vous convient à la Rochefoucauld un peu.
Oui.
Et justement, concernant toujours le pouvoir, la politique, quelques-uns ont retenu mon attention et je les trouve savoureux, c'est la raison pour laquelle je les partage avec celles et ceux qui nous écoutent. Un empire, c'est un royaume empire. Donc, si on vous propose un empire, gardez votre royaume.
Ça me paraît sage. Oui. Ça me paraît sage quand même. Parce qu'en fait, il y a une vérité fondamentale là-dessous. Soyez dans votre propre royaume et cherchez pas à en faire un empire. Parce que c'est obligatoirement imposer aux autres quelque chose de malsain et de dictatorial, comme on voyait tout à l'heure.
Autre aphorisme, à force de diviser pour régner, on finit en général par ne plus régner que sur des divisions, c'est mathématique. Et j'aime bien ces clins d'œil, cet amusement et le plaisir souriant qu'Éric Le Sennay prend à écrire ses pensées.
Moi, j'adore les pensées, ces pensées. Et il faut reconnaître qu'il y a plusieurs manières d'être inspiré, comme on dit. Dans ce cas précis et me concernant moi, il y a des fois juste un jeu de mots qui m'interpelle et que j'essaye d'extrapoler pour en faire juste quelque chose qui soit signifiant. Et après, il y a une autre chose, c'est la musique des mots. Dans les fables, ce qui me plaît, c'est la musique des mots. Et dans tout ce que j'écris d'ailleurs, moi je ne suis pas du tout musicien, avec un instrument, mais par contre, la musique des mots, ça me parle. C'est-à-dire que quand j'écris une phrase, même un courrier plus banal, j'aime pas qu'il manque quelque part la bonne musique. Il faut rajouter le mot qu'il faut pour que ça... Et là, je dis, c'est bon, on peut l'envoyer.
Alors, dans la Nièvre aussi, celui qui a écrit des pensées très piquantes et brillantes, c'est le... et son nom m'échappe, c'est l'homme de Chitry-les-Mines.
Jules Renard. Très franchement, c'est pas ma tasse de thé.
Préféré, dans ce cas, Guitry ?
Ah bah Guitry, là, bon. on est dans la... Non, non, il ne faut pas comparer les deux. Hein. Non, 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 c'est pas du tout. Moi, j'ai emmené mes filles voir au théâtre Édouard VII, le théâtre de Sacha Guitry. Mon père avait raison avec Claude et Alexandre Brasseur. Donc, mon père avait raison avec... Sachant qu'il y a eu Pierre Brasseur avant, quoi. Donc, la lignée des Brasseurs, c'était... Bon, voilà, là on parle de grands hommes, on parle de littérature, on parle d'un esprit.
Jules Renard est un grand écrivain.
Disons qu'on a le droit d'avoir une différence là-dessus. Alphonse Allais, tout ça, c'est des gens qui ont vraiment fait des aphorismes, des pensées, etc. Jules Renard, il confondait un peu sa politique et son écriture. Moi, je ne l'aime pas. Je n'aime pas ni le bonhomme, ni ce qu'il écrit. Poil de carotte, je trouve ça... pas terrible, ça m'amuse pas. Parlez-moi de Guitry, oui. Et oublions Chitry.
Alors, Clamcy a deux grandes figures littéraires, Claude Tillier et Romain Rolland, qui a été prix Nobel de littérature en 1915.
Oui, on a fait avec Clamcy TV, évidemment, beaucoup de choses en rapport avec Romain Rolland, parce qu'il y a une association très dynamique. Romain Rolland est connu au niveau international. C'est indéniable qu'il a un sens littéraire et une écriture et qui mérite tout ce qu'il a eu d'honneur. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé non plus, Romain Rolland, en tant que lecteur. Par contre...
Le Col à Brugnon, d'ailleurs, il y a un très beau reportage sur TV Clamcy consacré au centenaire de la publication de Col à Brugnon qui a été marqué l'année dernière. Et effectivement...
Il y a eu... Ça, c'était amusant à faire parce que pour quelqu'un qui fait des images, il y a eu l'opéra russe qui est venu se chanter pour la première fois en France, Col à Brugnon, en russe, avec des artistes français et russes. Et la fille du compositeur, Kabalevski, Maria est venue et on l'a interviewée en russe, avec une traduction bien sûr, mais moi j'adore faire ça, c'est-à-dire interviewer quelqu'un et juste sentir ce qu'elle est en train d'exprimer. Et puis voilà. Donc, Romain Rolland, oui, c'est un grand écrivain, c'est pas ma tasse de thé en tant que lecteur, mais par contre, je voulais dire quelque chose, c'est que quand on creuse qui c'était Romain Rolland, par rapport à Beethoven, à la musique, à toutes ces choses-là, c'est un monstre de connaissances. Et surtout, il a eu quelque chose sur son parcours qui est quand même étonnant. Alors, c'est une autre époque, peut-être. Quand on voit son physique, on ne l'imagine pas aventurier, aller...
Oui, un peu clergyman, un peu austère.
Hein. On l'imagine pas. Oui, c'est ça. On ne l'imagine pas d'abord écrire des choses aussi variées. Il y a une chose qui passionne mon fils, c'est qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le temps des machines » ou « La révolte des machines », dont l'exemplaire est au musée de... Il a un espace au musée Romain Rolland. Et « La révolte des machines », c'est ça. « La révolte des machines » a inspiré « Terminator » de James Cameron.
Eh ben dites donc.
Parce que « La révolte des machines », en fait, c'est le principe. Donc, Romain Rolland est plus riche que ce qu'on résume avec Jean-Christophe, les choses comme ça, où c'est quand même, je trouve, quelque chose qui est d'un ancien temps, quoi. Par contre, l'esprit moderne de Romain Rolland, c'est dans sa lutte pour la paix, avec Au-dessus de la mêlée, et surtout ses rencontres avec les grands intellectuels. Rabindranath Tagore, Sigmund Freud, si on aime.
Gandhi.
Gorky.
Gandhi. Le jeune Gandhi, hein, effectivement.
Oui. Gandhi, jeune, et Gorky, et même, je dirais, Freud pour l'époque, et Tagore. C'est un truc de fou, parce qu'à ce moment-là, il est quand même proche de quelqu'un qui sort de Lénine, quoi. Gorky, c'est Lénine, c'est les bolcheviks.
Hein, ah oui.
On est d'accord. Et Gandhi, à l'autre bout, qui est, je ne sais pas s'il a connu Gandhi avant ou après la Révolution pacifique, mais Sigmund Freud, il est au cœur d'une multitude de connexions intellectuelles. En plus de la musique, Romain Rolland est un personnage extrêmement intéressant de par la diversité de ce qu'il a brassé. Et je dirais plus par ça que par ce qu'il a écrit.
Alors peut-être qu'en me quittant à Avallon, à Brève, vous irez vous recueillir sur la tombe de Romain Rolland. Petite tombe toute simple, toute sobre, un peu oubliée d'ailleurs.
Je pense qu'il faut laisser les morts enterrer les morts. Mais par contre, il ne faut pas oublier ce qu'ils nous ont laissé comme héritage. Ce n'est pas la même chose. L'œuvre de Romain Rolland est vivante. Elle est connue dans le monde entier. Elle n'est pas assez connue en France. Le personnage n'est pas assez connu en France. Ce qui est dommageable, c'est que quand on propose un documentaire sur Romain Rolland sous ces angles-là, on n'a pas d'écho. Et ça, c'est dommage.
On en a peu parlé, en tout cas, au moment des commémorations du centenaire de 14-18. On a un peu oublié Romain Rolland.
J'avais proposé, sur le mode au-dessus de la mêlée, parce que ça, c'était intéressant, parce que c'est très moderne. Malheureusement, la politique de France 3, qui est mon principal interlocuteur via mes producteurs, c'est de ne pas faire de documentaire sur des personnages qui sont antérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Donc, Romain Rolland fait partie du wagon des oubliés. Et j'avais un projet sur Saint-Just qui, lui, a fait partie de la charrette des gens crucifiés. Et pourtant, j'ai travaillé longtemps. Mais ça a été remplacé par mon documentaire sur Jean-Pierre Soissons. Et là, je ne vous cache pas que j'en suis ravi parce que, au lieu de passer avec quelques temps avec un type qui est Saint-Just, qui est intéressant, mais qui est quand même assez hard, quoi. Et puis, qui a été député pas longtemps, j'ai passé du temps avec quelqu'un qui a été député pendant 44 ans, Jean-Pierre Soissons, et qui est un type vraiment qui gagne à être connu.
Ah, c'est un personnage haut en couleur.
Et maintenant, je le connais bien, et donc il a beaucoup gagné.
Éric Lecenet, nous marquons une nouvelle petite étape musicale. Je rappelle que vous êtes l'invité de Wagon Livre pour votre recueil Fables d'aujourd'hui. C'est une conversation très, très animée, hein. Vous avez bien compris qu'avec Éric Lecenet, là, on pourrait faire une série de 10 émissions, de 10 wagons livres. Hein. Enfin bon, les auteurs, non seulement sont fertiles, ont une œuvre riche, mais alors en plus, quand ils s'expriment, alors mon Dieu, ils sont... on ne peut pas les arrêter. Bref, on se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité, Éric Lecenet. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Wagons Livres et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Toute la nuit j'entends nuages, m'en veux d'avoir très bien.
bûcher. La vie n'est-elle un partage? Je me sens seul abandonné. Mais comment tourner la page? Alors si c'est ça que tu voulais. Mais reviens s'il te plaît, ni toujours ni jamais, juste une envie qui me plaît. Pas demain ni un jour, pas de peut-être s'il te plaît, ni jamais ni toujours, juste un ensemble on s'aimait.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes toujours avec Éric Le Sonnet, notre invité aujourd'hui. Éric Le Sonnet, donc pour son recueil Fables d'aujourd'hui. La conversation est riche. Une fable, parmi beaucoup d'autres, hein, Éric, a retenu mon attention parce que la thématique me touche et je pense qu'elle est d'une grande actualité. Cette fable a pour titre Le parapluie et l'ombrelle. Et j'y ai vu, alors j'ai beaucoup aimé le néologisme, la parasolerie. À moins que le terme existe, mais je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire.
Non, bien sûr, il y a justement à Paris quelqu'un qui est fabricant de parapluies et d'ombrelles et qui tient une parasolerie.
Ah oui.
C'est du côté de la gare de Lyon, les nouvelles arcades, là, quand ils ont aménagé tout sous le métro aérien. Et j'ai fait un reportage sur cette maison et sur son fabricant. Qui s'appelle Heurteau, la parasolerie Heurteau. Et donc, il m'a fait découvrir l'univers des parapluies et des parasols de luxe.
Des objets d'art, presque.
Ah, tous, uniques. Et donc, par exemple, la partie inférieure du parapluie s'appelle le tapater.
Oui, d'ailleurs, le terme apparaît dans la fable, tapater.
Rien que ça, tapater, pour quelqu'un qui aime les rimes, c'est déjà fabuleux. Donc, il y a eu... Dans cet univers d'images, qui était évidemment en reportage pour parler de la parasolerie Heurteau de manière tout à fait habituelle, à ma manière, quoi, en images et en son. Et je me suis dit, parapluie, ombrelle, qu'est-ce que c'est beau, quoi, quelle symbolique. Et donc j'ai inventé une fable où le parapluie est amoureux de l'ombrelle et l'ombrelle fait de l'ombre, et le parapluie protège de la pluie, et il y a tout un jeu d'ombre et de lumière autour de ces créations formidables, avec les fameux tapaters. Et je trouve que tapaters, ça ressemble, la fonction musicale de tapaters, on est déjà en train de taper avec le parapluie. C'est Mary Poppins au pays des fables d'Eric Lucenay.
Et c'est un éloge de l'artisanat, de l'objet d'art, de l'objet presque unique, qui effectivement n'est pas un objet standardisé, mais qui... Et alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans des produits complètement standardisés. Quand vous écrivez, Eric, vous dénoncez dans cette fable les produits dérivés de ce monde pétrolier,
oui.
On
comprend que maintenant, on en est au 6e et 7e continent de plastique à l'autre bout de la planète. Hein. Pourquoi j'ai écrit ça? C'est que je pense que ça symbolise les 50 sujets que j'ai fait sur les artisans du luxe. Et celui-là m'a parlé un petit peu plus. Mais j'ai été à un moment, et à un moment où personne ne l'avait fait tellement avant moi, quoi. Quand vous avez vu tout l'artisanat chez Pernod à 13h, c'était après moi. Moi, j'ai fait une sorte de clin d'œil. C'est simple, ça s'est passé quand j'ai interviewé Bernard Arnault. Je lui ai dit, monsieur Arnault, sans les artisans, finalement, vous ne seriez rien. Et il m'a dit, mais vous avez raison. Et là, je l'ai regardé dans ses grands yeux bleus et je lui ai dit, toi, t'es pas con, mon pote. Et après, il m'a laissé pratiquement faire un peu ce que je voulais dans la maison Vuitton. Et après, j'ai fait plein de... J'ai fait, par exemple, un formier à chapeau. Pas un chapelier, pas quelqu'un qui fait les chapeaux. Quelqu'un qui fait la forme pour fabriquer le chapeau. Par exemple, le chapeau de Lucky Luke, dans le film Lucky Luke, du jardin, là, qui fait Lucky Luke. Le chapeau, ben, ça a été fait par un formier à chapeau italien. Et tout. Donc, j'ai rendu hommage en image à tous les gens qui ont encore un savoir-faire et qui font encore... le luxe français et qu'ils font connaître.
C'est ça, c'est la défense du made in France.
Parce que c'est un milieu où il n'y a pas de chômage. Les gens se forment les uns après les autres et ils ont du talent et ça se transmet, etc. Et donc, le parapluie et l'ombrelle, c'est effectivement, Yannick, vous avez raison, un hommage à tous les savoir-faire possibles.
On marque, nous, une dernière pause musicale en ce samedi 6 juin, hein, date symbolique aussi dans notre histoire de France et également dans la famille d'Éric Lucenay. On ne va pas le développer parce qu'on va manquer de temps malheureusement, mais je sais que c'est une date à laquelle vous êtes très attaché.
C'est une date qui me poursuit et je suis ravi que c'est un signe fabuleux pour l'émission Wagon Livre, ça a marché d'enfer.
On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité Éric Lucenay, auteur du recueil Fables d'aujourd'hui.
Elle panique à l'idée d'en faire trop, de vieillir prématurément. Elle panique à l'idée d'être de trop ou de s'ennuyer un instant. Elle a peur que tu t'en ailles, peur de tes représailles. Pour son petit frère, elle a peur, peur pour son derrière. Elle panique. Fous-moi la paix, ma sale caboche. Tu ne me feras pas sombrer. Je t'aurai à grands coups de pioche si tu ne laisses pas tomber.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le temps passe très vite à bord de ce Wagon Livre en cette fin de matinée sur Radion. Nous sommes avec Éric Le Senay, venu nous présenter son recueil intitulé « Fables d'aujourd'hui ». Je voudrais aussi, Éric, saluer l'éventail des thèmes abordés dans les fables, parce qu'il y a aussi, me semble-t-il, une volonté de nous encourager. Alors ça tombe bien parce qu'on revit un peu après une période un peu de frustration et de privation de liberté tout de même, n'ayons pas peur de le dire, mais il y a un hymne à la vie, à la jouissance, au plaisir d'être ensemble, le sexe, le plaisir du corps, le plaisir des yeux, la nourriture aussi, Éric. Je vous laisse peut-être conclure aussi sur cette belle image de la vie dans toute sa puissance.
Moi, ce que je pense, c'est que ces fables, c'est une balade dans l'univers d'un hédoniste, ça je suis complètement d'accord, et de quelqu'un qui pratique le carpe diem et qui a fait tout un parcours sur lui-même, hein, ça ne vient pas de nulle part, et qui fait des clins d'œil à la spiritualité qu'il a épousée, qui n'est pas une religion, attention, ce n'est pas la même chose, qui est proche du taoïsme. Et donc, il y a même une fable où il y a des clés. C'est l'histoire d'un chien et d'un cheval où il y a des clés sur une certaine forme d'initiation qui m'a été très 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 précieuse.
Une question de karma dans une des fables.
Oui, absolument, parce que je pense que la théorie la plus intéressante de décodage de la vie, de l'après-vie, de l'avant-vie, etc., elle est en Asie. Elle est dans le Tao, elle est dans le karma, et que là, il y a quelque chose à prendre et à apprendre. Et donc, au travers de ces fables, c'est pas du tout du prosélytisme. D'ailleurs, le Tao n'est pas une religion, le Tao est une philosophie. C'est Confucius, c'est Lao Tzu, c'est très très précieux. Donc, il y a ça au travers de tout ça. Mais comme je peux pas m'en empêcher, il y a un petit coup de Cyrano par-ci, parce qu'il faut quand même un peu de panache dans tout ça. Et il faut aussi qu'il y ait des cuisiniers qui finissent dans leur propre jus. Il faut qu'il y ait des colombes qui sont pas tout à fait aussi colombes qu'on le pense. Il faut qu'il y ait des personnages changeants, etc. Il faut pas oublier une chose, c'est que tous ces animaux ne sont que le reflet de la vie des hommes. Et moi, je remercie tous les animaux qui sont dans mes fables et tous ceux qui ont voulu prêter à La Fontaine, à Ésope et éventuellement à Éric Le Senay leurs plumes, leurs poils, leurs serres, leurs yeux, leurs crêtes,
leur
que
museau.
Leur groin, pour qu'on arrive à parler des hommes au travers de ces personnalités complètement folles. Et il y en a une que je voudrais citer, le Paon de Bagatelle. Rien que ça, c'est d'une force extraordinaire. Et à la fin, il se laisse glisser dans l'eau pour ne pas qu'on l'enterre. Et voilà. Et il y a des destins fabuleux derrière tout ça. Mais c'est juste des personnages archétypaux extrapolés de gens ou de situations que j'ai rencontrées. C'est pas des vraies personnes. Et tout le monde cherche les vraies personnes derrière. C'est pas important. En fait, c'est une sorte de portrait du monde tel qu'il est. Des humains, ou en tout cas tel que moi, je l'ai entreaperçu avec la musique des mots comme moyen d'expression.
Merci Éric Le Senay. Je rappelle que si on veut se procurer votre fable, on peut la commander via le site de Clamcy TV.
À la boutique de Clamcy TV.
Dans l'onglet boutique, voilà, oui. Absolument.
Et après, il y a tout un système sécurisé qui tombe dans notre escarcelle.
Formidable. Merci Éric Le Senay en ce samedi 6 juin. Clin d'œil, mais vous savez à quoi je fais allusion. Enfin, 6 juin aussi, 44, pour toute la nation, je crois que c'est une date importante.
Si je peux me permettre, Yannick, je voulais dire un mot sur Yannick et sur Wagon Livre. Continuez à faire ce genre d'émission, continuez à prêcher les bonnes paroles, à donner les bons mots et à ouvrir les micros.
C'est du partage.
Pour les gens qui écrivent, parce qu'à l'autre bout, il y a des gens qui lisent, et que je voudrais juste rappeler, puisqu'on a parlé de dictature, ce qui n'était pas obligatoirement mon intention, que le premier geste d'une dictature, au moment où elle prend le pouvoir, c'est de brûler les livres.
Les autodafés.
Les autodafés. Donc, je fais un vœu, et je l'envoie dans l'univers, pour que jamais on ne brûle un cheveu de l'émission Wagon Libre que j'ai adoré faire dans ce cadre magnifique de l'hôtel à Vallon-Vauban, qui est vraiment un endroit extraordinaire. Continuez à faire de la radio.
Merci Eric Le Sennet, Wagon Livre qui fêtera ses 10 ans au mois de novembre. Plus de 400 émissions, voyez comme quoi le wagon ne déraille pas et tout se poursuit agréablement et c'est toujours un grand plaisir d'accueillir les écrivains dont vous aujourd'hui Eric Le Sennet. Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont fidèlement suivi ce matin. L'émission se retrouve bien sûr disponible en podcast sur le site d'archives, hein, www.yannickpetit.fr. On n'oublie pas Clamcy TV à découvrir et notamment pour commander le recueil de fables de notre invité. Très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir Eric Le Sennet.
Au revoir Yannick. Thank you.